Et pour débuter cette émission, nous accueillons Guillaume au 3921. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous bonsoir, appelez-vous bonsoir. Guillaume et quel âge avez-vous?
Je vous appelle de Paris, Montreuil, et j'ai 33 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Guillaume?
Eh bien, si je suis là, c'est pour parler d'une histoire que je vis depuis 3 ans. Une érotomane me poursuit un petit peu partout dans le monde.
Une érotomane. Ouais. Alors, dites-nous, ouais. Parce que bon, je sais ce que c'est, mais peut-être que certains qui nous écoutent ne savent pas tout à fait, ne connaissent pas la définition d'une érotomane.
Eh bien, l'érotomane, c'est déjà la définition, c'est eros en grec, c'est-à-dire amour, et en fait, c'est une quête de l'autre, une poursuite d'une histoire d'amour, quelqu'un qui est obsédé par une autre personne, d'une manière amoureuse, au point où c'en est une obsession qui tourne, qui finit bien souvent, malheureusement, dans le drame, par le suicide de la personne qui souffre d'érotomanie ou sa victime qui peut se faire tuer par la personne qui souffre d'érotomanie.
D'accord. Cette personne érotomane, oui. Est-elle persuadée que vous l'aimez ou est-elle persuadée que vous l'aimez sans vraiment le savoir, en fait, de votre point de vue?
Alors, je pense que l'érotomane, en général, est persuadée que l'autre personne l'aime aussi. C'est au niveau du subconscient. Je pense que la personne qui souffre d'érotomanie est persuadée que elle et la personne pour qui elle a de l'attirance sont faits l'un pour l'autre d'une manière évidente et obsessionnelle totalement certaine.
Voilà. D'accord. Vous avez rencontré cette femme, je suppose, à plusieurs reprises, mais où vous êtes-vous connu? Où vous a-t-elle connu plutôt?
Alors moi, je suis un voyageur. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger et spécialement en Inde. Donc, et je fais des spectacles. Et du coup, en Inde, en mois de février 2018, j'avais créé un spectacle dédié justement plus à la féminité. Et je n'intervenais pas sur scène. J'étais plus le directeur et je gérais les différents actes du spectacle. Et bref, et à la fin du spectacle, il y avait quelque chose, une sorte de cérémonie un petit peu chamanique. Et cette personne était dans le public.
Oui.
Et l'idée de ce final, c'était que tout le monde se lève et rentre dans une espèce de transe et se mette à danser pour rejoindre aussi les artistes sur scène. Et tout le monde danse un petit peu comme ça pendant un certain temps, sans qu'il y ait vraiment de fin de spectacle, mais plus une sorte de cérémonie de fin, de clôture. Et cette personne était dans le public, tout simplement. Et elle a su que c'est moi qui avait écrit tout ça. Et je pense que c'est... je le sais parce qu'évidemment, après, elle m'a envoyé plus de 1600 mails dans lesquels elle est revenue quelques fois sur cette soirée qui, pour elle, a été une révélation sur qui j'étais, etc.
Oui.
Voilà.
Une révélation un peu mystique, vous pensez?
Oui, voilà, c'est ouais. Ça. C'est qu'elle a cru... Elle a répété plusieurs fois, en tout cas, qu'elle était persuadée que j'étais la réincarnation d'une divinité indienne qui s'appelle Shiva.
Oui.
Et qu'elle, du coup, par opposition, elle était son amoureux divin, son amoureuse divine qui est Parvati. Donc, elle est persuadée qu'elle était une dieu et que moi, j'étais son dieu aussi, enfin le dieu Shiva.
D'accord. Donc là, on parle d'un délire psychotique, psychiatrique, carrément?
Absolument.
D'accord.
Bah oui, absolument.
D'accord. Cette femme, en fait, a échangé avec vous à un moment ou un autre, à part lors de ce ouais. spectacle.
À la fin du spectacle, elle m'a juste salué. Elle m'a regardé dans les yeux, sans vraiment dire grand-chose. Et je crois qu'elle m'a peut-être dit merci ou un truc comme ça.
Oui.
Mais bon, c'était un peu difficile pour moi à mémoriser finalement, même si j'ai évidemment après coup j'ai beaucoup essayé d'y revenir dans ma mémoire. Puisque ce soir-là, évidemment, j'ai eu beaucoup de retours de beaucoup de gens et tout le monde avait l'air un petit peu pareil. Tout le monde était content et me félicitait. Donc, j'ai pas un souvenir vraiment spécifique de l'avoir vraiment croisé. À part ce moment, je sais que je l'ai vu. Je sais qu'elle m'a regardé dans les yeux à un moment donné.
Oui.
Et puis, c'est tout, quoi.
D'accord.
Et c'est surtout après, en fait, que j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui clochaient, puisque elle a commencé à me suivre un petit peu partout. Quand moi, je pratiquais mes agrès de spectacle, elle était toujours à rôder autour de moi, à vouloir que je lui apprenne. Donc dans sa première phase, puisque l'érotomanie, ça a 3 phases, dans sa première phase, c'était plus une, une quête d'apprentissage, comme si je devais lui apprendre, lui dire comment faire des spectacles ou quelque chose comme ça.
D'accord, lui transmettre quelque
Et
chose en fait.
voilà, c'était plus une idée de transmission. Mais déjà, il y avait des signes qui ne trompaient pas. Par exemple, un soir où j'ai dit « see you later » à mes amis, ce qui veut dire « à plus tard
Oui.
», elle n'était pas loin. Et en fait, elle a appris, plus tard, elle m'a envoyé un message dans la nuit. Elle m'a dit si tu veux si tu veux me voir plus tard, il faut que tu m'envoies une invitation. Et ça, c'est déjà un symptôme de l'érotomanie, puisque un des signes de l'érotomanie, c'est que peu importe ce que la victime va dire, la personne qui souffre d'érotomanie va le transformer comme une invitation, comme un message d'amour, comme quelque chose de cosmique ou j'en sais rien. Et ça va même si je dois dire à cette personne plus agressivement que ce que j'ai dû faire après rapidement, de dire bah, les gars, je veux vraiment pas te voir, sors de ma vie, etc. Pour mettre une espèce
Ça
de
a
bloc
commencé
pour.
comment, Guillaume? Ça a commencé par des messages, en fait. Comment ça s'est passé progressivement?
Bah, dans les premiers temps, c'était ça. Donc, elle me poursuivait un petit peu à droite à gauche, mais ça faisait plus rire tout le monde qu'autre chose. Et là, il y a ta russe folle rouge qui te suit sur la plage ou qui te cherche encore à savoir à apprendre ce que tu fais, etc.
Oui.
Ça, c'est la première phase du coup de l'érotomie, jusqu'au jour où il y a une rupture, qui est, on va dire, la première agression. Pour moi, ça s'est passé à peu près 9 mois ou 10 mois plus tard.
Toujours à
Donc,
Goa,
entre-temps, ma...
toujours à
non, oui,
Goa.
entre-temps, elle est venue en France pendant que moi j'étais en France.
Oui.
Et après, pour le mois de novembre au mois d'octobre de la même année, donc en 2018, je suis retourné en Inde pour une très courte période avant mes spectacles d'hiver et en France. Et à ce moment-là, on célébrait mon anniversaire d'ailleurs, je crois que c'était ça, c'était mon dernier soir en Inde avant que je retourne en France. Et on a fait une petite soirée, etc., avec mes amis, on jouait de la musique, on faisait des spectacles de feu. Et elle est venue à cette soirée sans être invitée. Et elle m'a attrapé en plein milieu du truc. Elle m'a attrapé avec elle m'a empoigné le t-shirt. Et elle m'a dit, peu importe où tu iras, peu importe ce que tu feras, je serai toujours là, je te suivrai partout dans le monde et tu pourras rien faire pour m'en empêcher. Et là, à ce moment-là, c'était un peu comme une première altercation. Donc évidemment, je l'ai repoussée, je suis rentré dans ma guest house, dans ma chambre d'hôtel. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème et que c'était pas possible que cette fille continue de rôder autour de moi. Et là, c'est un peu le début du cauchemar, entre guillemets.
Oui.
Le début, bah, vraiment de la vraie phase de l'érotomanie. Là où on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de psychique, que ça rigole pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose derrière qui est pathologique.
Lorsqu'elle vous a menacé de vous suivre partout dans le monde, je suppose que vous n'y avez pas cru dans un premier temps.
Si, là, j'y ai cru.
Ah oui, vous y avez cru. D'accord.
Ah ouais, bah, déjà, je l'avais vu pendant ce court séjour au mois de novembre. Je l'avais vu, elle avait installé dans le même hôtel que moi. J'avais prévenu les propriétaires que c'était une très mauvaise idée, que cette fille était très étrange, etc. Mais ils l'ont accepté quand même. Chose qu'ils ont regretté après, dans le futur. Je reviendrai là-dessus. Et oui, bah, à rôder tous les jours, à passer 15 fois devant ma porte de chambre, à poser des fois des fleurs sur le palier de ma porte. Et instinctivement, je ne sais pas pour comment l'expliquer, mais instinctivement, j'étais persuadé que ma poubelle était à l'extérieur de ma chambre et j'avais une copine à ce moment-là. Et après, quand on faisait l'amour, je détruisais mes préservatifs parce que j'étais sûr à 100% dans mon
qu'elle pouvait les
esprit
récupérer.
qu'elle aurait récupéré les préservatifs et qu'elle se serait
Oh là, d'accord. Ah oui, carrément.
assimilée ma semence
Ah oui, donc ça allait
pour
très
retomber
loin.
enceinte de moi. Et finalement, chose qui m'a mis la puce à l'oreille, que j'ai bien fait d'avoir cet instinct à ce moment-là, c'est que quelques mois plus tard, dans les emails qu'elle m'a envoyés à répétition, elle me disait tout le temps qu'elle voulait absolument un bébé avec moi, qu'il fallait qu'elle ait un bébé avec moi, etc., etc. Et je pense qu'elle aurait fait à ce moment-là. En fait, en plus, après, dans les mois qui ont suivi, elle racontait souvent par exemple, si on était en Inde, elle racontait qu'on était mariés en France et qu'on avait eu des enfants en France. Et si elle me poursuivait en France, elle racontait la même histoire où elle disait qu'on s'était mariés en Inde, que c'était ma femme et qu'on avait eu des enfants en Inde. Et plein d'autres messages qui évoquaient le fait qu'elle voulait avoir des enfants avec 2 mois me confirment qu'à ce moment-là, j'ai bien fait d'avoir pris ces précautions et de détruire mes préservatifs dans la poubelle.
Oui. Ça a continué comment, cette histoire, en fait?
Et bah, à partir de là, c'est un petit peu. Ouais, ça commence à être un cauchemar. Hein. Donc, J'ai mille détails, hein. Je vais essayer de vous condenser l'histoire, évidemment, au maximum. Mais après, je fais ma saison d'hiver en France, je travaille, je fais des spectacles, et en mois de janvier, je retourne en Inde. Et là, à ce moment-là, son obsession tourne vraiment à un degré supérieur. Son obsession, c'est qu'elle se réveille le matin et jusqu'au soir, la seule chose qu'elle essaie de faire, c'est de me trouver, c'est sa quête. Donc moi, je suis obligé de me cacher, je suis obligé d'avoir une sorte de réseau sur Facebook. On avait fait un groupe Facebook anti-Julia pour qu'à chaque fois qu'elle soit, cette personne qui s'appelle Julia, à chaque fois quelqu'un l'a localisée dans la ville, moi je pouvais me permettre de sortir de l'autre côté de la ville. Donc c'est un jeu de cache-cache où au final, quand elle me voit, elle essaie de me tripoter le sexe, elle me saute dessus, elle me bondit dessus, elle essaie de danser devant moi, elle me jette des choses à la figure, ou alors c'est des choses qui est pire. En fait, finalement, c'est même pas avec moi, c'est les agressions qu'elle fait sur les filles qui sont soit des amantes de voyage ou des amis proches. N'importe quelle présence féminine autour de moi était pour elle une compétition, donc agression, morsure, coup de poing, coup de pied, comme une sorte d'animal sauvage finalement.
Mais
Et
vous aviez la possibilité en Inde d'aller porter plainte ou pas, ou c'était compliqué?
absolument. Donc moi, je prends les choses sérieusement déjà à ce moment-là. Donc j'essaie d'aller voir les policiers locaux. Et bon, bah, c'est pas facile, hein. C'était un peu en vacances, quoi, sur la plage aussi. Ça m'est vraiment arrivé d'aller là-bas, de les réveiller parce qu'ils dormaient ou alors ils étaient sous, des choses comme ça. Et donc j'ai quand même réussi à la faire arrêter 2, 3 fois, mais à chaque fois il a relâché. Je faisais des plaintes, mais bon, qui étaient main courante et qui après qui servaient à rien à part pour faire une photo que moi je gardais pour prouver que j'avais porté plainte. Donc aucun effet, ça servait à rien d'aller voir la police. Donc voilà, il y a eu des moments où des amis l'ont croisée sur la route sur laquelle j'habitais, parce qu'elle cherchait mon logement, et ils l'ont trouvée dans des temples en train de supplier le dieu Shiva pour qu'il le guide jusqu'à moi. Elle était une espèce de transe dans des temples en larmes, en train d'essayer de demander au dieu où j'habitais, des trucs comme ça.
C'est assez
J'ai plein
effrayant, c'est
d'anecdotes, je sais
assez
pas à quel point vous
effrayant
voulez que je
comme.
continue.
Alors, non, mais je pense que celles et ceux qui nous écoutent sont intéressés par les divers comportements qu'une érotomane peut avoir. Et là, visiblement, on est vraiment en présence d'une femme qui avait une obsession totale sur vous. Vous étiez
Absolument.
le centre de son univers. Est-ce qu'elle a
Ouais,
essayé de
sans.
contacter des proches à vous?
Absolument. Dès le début d'ailleurs, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé les réseaux sociaux comme une ressource d'information. Ben, en tant qu'artiste et écrivain, les réseaux sociaux, c'est un outil de travail. Et donc du coup, moi, j'essaye pas forcément d'y aller à fond, mais de l'utiliser comme un outil de travail, puisque c'est son principe pour mon activité. Et elle a utilisé bah, le réseau social pour me retrouver. Donc très rapidement, elle a rajouté tous mes amis sur son profil pour recevoir le plus d'informations possible de moi par le biais de mon profil ou par le biais secondaire de mes amis et connexions. Et du coup, une fois que je l'ai bloqué, après, c'était des faux profils. Je ne sais pas combien de faux profils que je sais que c'est elle que j'ai bloqué, mais je m'en en sachant que c'est Facebook et Instagram. Elle a contacté mes grands-parents,
Elle
elle
a
a
contacté vos
contacté
grands-parents et elle leur racontait quoi, vos grands-parents?
que c'était ma femme, qu'elle essayait de me retrouver, ou alors elle essayait juste de se faire amie aussi, parce qu'elle a fait avec d'autres personnes. Elle essayait juste de faire amie avec d'autres personnes pour que par accident elle se retrouve amie avec les mêmes connexions que moi, pour qu'après on soit dans le même cercle de gens. Mais
Et
bon,
que
en
vous vous
fait, vu
retrouviez au
qu'elle
même endroit
est
qu'elle, en fait. Ça vous
ouais,
est arrivé
exactement.
qu'elle se retrouve à un dîner ou à une soirée en votre compagnie?
Ah bah, ça arrivait beaucoup trop de fois,
Ah
malheureusement.
oui,
Donc,
d'accord, carrément.
ce qu'elle a aussi fait, c'est qu'elle a suivi mes activités artistiques, et l'ancien employeur avec qui je faisais mes spectacles de feu publiait en avance toutes les dates où on allait se produire.
Oui.
Donc, elle avait juste à suivre le programme qu'on avait et à se retrouver sur mes spectacles. Donc là, vu que j'avais déjà des plaintes, vu que j'avais déjà beaucoup de traces de ce qu'elle faisait, à chaque fois, j'avais sur moi le kit Julia que j'avais appelé. C'est un document rempli avec plein de plaintes, plein de preuves de ce qui se passait. Chose que aussi j'avais en email et que j'utilisais en amont, juste enfin, le jour de la date de mon spectacle. J'appelais le commissariat ou la police de la ville où je me produisais et je prévenais que j'allais venir chez eux jouer, qu'il y avait une psychopathe qui risquait de venir tenter à ma vie pendant que je manipulais des lance-flammes, des explosifs et des objets en feu sur scène. Voilà. Donc ça, je l'ai fait souvent. Je l'ai fait tout l'été 2019. J'ai fait arrêter 17 fois dans l'été. En général, les policiers et les gendarmes le font en contre-cœur parce qu'ils ont du mal à comprendre qu'une femme peut harceler un homme. D'ailleurs, aussi, malheureusement, les associations d'harcèlement n'ont pas vraiment pris en compte ma demande. J'ai lancé un appel, j'ai contacté 20 associations. Et il y en a que 3 qui ont pris la peine de me répondre pour me dire qu'ils ne géraient que les problèmes d'harcèlement quand c'est une femme qui se fait harceler par un homme. Mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Ce que je voulais dire aussi, c'est que oui, des fois, avec mes amis, on a créé des faux événements, des faux spectacles. Et comme ça, je l'ai envoyé des fois à Venise, je l'ai envoyé à Budapest, je l'ai envoyé à Prague. D'accord. Je l'ai envoyé dans le sud de la France quand j'étais au nord de la France. Et après, quand j'étais juste après dans le sud, je l'ai envoyé dans le nord. On a fait des stratagèmes avec d'autres amis artistes pour éviter qu'elles se retrouvent... Parce que j'étais impuissant, je me réalise que je suis dans un angle mort juridique et que finalement, je n'ai pas l'impression qu'il y aura une solution à ce niveau-là. Donc, j'essaie de trouver, de solutionner ma situation par mes propres moyens.
Parce que finalement, c'est ce qui est effrayant dans votre histoire, c'est que juridiquement, cela doit être très compliqué de prouver ce harcèlement.
Le prouver, ce n'est pas un problème. Puisque j'ai des vidéos où elle m'attaque, comme je vous ai dit, j'ai 1600 emails d'elle que j'ai conservés.
1600 emails.
J'ai beaucoup d'éléments, mais j'ai beaucoup de preuves. Et même si les preuves ne suffisaient pas, je dois avoir 1000 témoins de cette histoire maintenant. Des gens qui connaissent, qui savent, des artistes qui ont souffert de cette situation, des amis, beaucoup de gens en ont souffert. Non, le problème, c'est pas le manque de preuves, c'est le manque d'écoute. C'est un angle mort juridique, donc ça signifie que finalement, même s'il y a des preuves et que c'est évident que cette personne me gangrène et comme un ver dans une pomme,
vous devez avoir une angoisse, une peur. Vous devez tout de même vivre avec l'angoisse permanente. Pour vous, mais aussi
c'est une obsession.
Pour votre fiancé du moment où je ne sais pas si vous avez fait votre vie avec quelqu'un depuis, mais cela doit être une peur constante pour vous d'être agressé, voire même il y a eu quelque chose de très grave qui s'est passé, me semble-t-il.
Oui, bien sûr. Mais je vais répondre du coup en deux parties à votre question. Pour essayer de faire comprendre aux gens qui s'interrogent sur l'érotomanie, en général, j'essaie de faire une métaphore avec le viol. Le viol, c'est une attaque, c'est une profanation du corps. C'est quelqu'un qui vous possède le corps et qui en abuse, possède l'esprit. C'est quelqu'un qui vous gangrène l'esprit parce que l'obsession qu'elle a sur l'attention qu'elle porte sur vous, comme un jeu de miroir, vous avez la même sur cette personne. Parce que cette personne, vous ne savez pas si elle sera en bas de la rue, si elle n'est pas dans l'ombre, dans un coin de vous, si elle ne sera pas là quand vous allez. Et finalement, le fait que cette personne pense tout le temps à vous, ça vous oblige à penser à cette personne, oui. Parce que vous avez peur de la voir, en fait. On continue. Vous avez peur qu'elle vous agresse, qu'elle agresse vos proches, etc. Comme ce que vous venez de dire. Et c'est difficile à entendre, c'est pas facile à comprendre, finalement, puisque c'est du dommage interne que ces personnes font. Mais c'est tout aussi... je sais pas, je peux pas comparer, finalement, mais je sais que c'est un traumatisme qui peut vraiment aller très loin. Heureusement, en tout cas, dans mon côté, j'arrive à encaisser, puisque j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai eu beaucoup d'aventures dans ma vie, donc j'arrive à transformer, on va dire, ma douleur. Mais je sais, et j'ai entendu beaucoup d'autres personnes qui m'ont contacté depuis que j'ai médiatisé mon histoire, et je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent beaucoup, beaucoup, et beaucoup trop dans le silence. Parce que aussi, justement, le silence, c'est la seule manière d'assécher le bourreau, en quelque sorte. Les érotomanes se nourrissent des activités et de ce que fait sa victime. Alors que, et du coup, la seule solution, des fois, c'est de se croupir dans l'ombre, malheureusement. Et d'ailleurs, ce n'est pas une solution, mais c'est ce que beaucoup se forcent à faire.
Mais
Ils
ce qui est fou,
s'éteignent pour éteindre le bourreau, en quelque sorte.
ce qui est fou en fait, c'est que vous êtes dans la peur permanente, donc elle gâche une partie de votre vie en ce moment.
Absolument. Donc là, moi, du coup, je vais faire la deuxième partie que j'allais dire. Parfait. Voilà, enfin, en tout cas, il n'y a pas longtemps, j'ai tout quitté. Elle avait trouvé mon lieu de vie sur Rennes. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'évoquais le mot profanation. C'est un terme aussi qui vaut pour dès qu'elle trouve un lieu, je sais que je suis foutu, je ne peux pas y retourner parce que je ne sais jamais quand est-ce qu'elle va y retourner. Donc, avec le Covid et le manque d'activité artistique, moi, j'ai fait un voyage. Et en
Oui.
retour de ce voyage, j'ai un peu tout quitté. J'ai déménagé, j'ai changé d'employeur, j'ai changé de numéro. J'ai tout changé ma vie en quelque sorte, et je me suis installé à Paris avec ma compagne que j'ai depuis un an et demi, etc., etc.
Qui vit, je
Et
suppose,
j'ai
la même peur que vous, au final,
absolument,
puisqu'elle s'attaque à...
absolument. C'est comme si, enfin, que moi j'avais un tard dans mon existence et qu'elle doit embrasser pour, enfin, pour qu'elle doit accepter pour m'accompagner. Et moi, c'est terrible parce qu'elle m'a vu me défendre pendant qu'elle m'agressait à plusieurs reprises. Comme ce qui s'est passé le 14 juillet, donc le 14 juillet dernier, dans l'été. Donc moi, finalement, j'essaie d'être anonyme le plus possible. Et là, prochainement, je vais publier un livre qui s'appelle Namastyle, un roman. Et pour ça, j'ai dû m'inscrire à l'URSSAF. Et j'ai fait une erreur, c'est que l'URSSAF publie les données de la personne qui s'inscrit en ligne.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, 4 jours après que je me suis inscrit à l'URSSAF,
Elle vous a retrouvé.
elle était chez moi. Donc c'était le 14 juillet, on venait juste de manger avec d'autres amis artistes dans Montreuil. Et je rentre chez moi avec ma copine et j'habite au cinquième étage. J'ai pris l'escalier et puis elle attendait au sixième avec ses affaires d'ailleurs. Et quand je suis arrivé pour ouvrir ma porte, elle a déboulé du sixième étage en hurlant qu'elle voulait me tuer. Enfin, elle a dit en anglais, die. Et elle m'a poussé dans l'escalier. Heureusement, j'ai pu me rattraper à la rambarde pour pas être renversé. Et après ça, on a eu une altercation. Donc moi, j'ai mis de côté. Enfin, je l'ai contrôlé. Je me suis battu avec elle. Et je l'ai mis au sol pour laisser ma copine pouvoir rentrer chez moi
Oui.
et m'apporter une bombe au poivre. Pendant ce temps-là, j'étais au téléphone avec les policiers de Montreuil. Après, j'étais au téléphone avec les gendarmes de Liffré qui étaient intervenus l'année d'avant. Donc du coup, ce qui m'a permis d'expliquer plus rapidement aux policiers de Montreuil la situation, puisqu'en général, il y a toujours un temps où ils ne croient pas, où la police va me dire « Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais c'est votre ex, mais pourquoi elle est comme ça? C'est que vous lui avez fait du mal, etc. » C'est vraiment un réflexe que beaucoup de gens, malheureusement, ont eu dans cette histoire, ce qui rajoute à ma frustration. Et voilà, donc du coup, bah, ce jour-là, je l'ai donné à la police qui l'a embarqué. Et j'ai beaucoup assisté d'ailleurs pour qu'il me prévienne s'il la sort, parce que je sais très bien que d'habitude il la garde un jour et après il la ressort.
Oui.
Mais là, vu qu'il y avait tentative quand même d'homicide, hein, enfin, pour moi, quand quelqu'un jette quelqu'un d'autre dans l'escalier en hurlant qu'il veut
C'est
qu'il meure,
clair, c'est
c'est
clair.
ça. Eh ben, j'imaginais qu'il y avait peut-être un espoir qu'il se passerait quelque chose de nouveau. Mais j'ai quand même au moins répété 50 fois aux policiers, écoutez-moi, dites-moi si elle sort. Et je passe ma journée à l'hôpital pour mes mains, puisqu'on s'est assez à moitié battu. Donc, quand je vous dis on s'est à moitié battu, juste pour vous donner une température de la folie que c'est elle qui essaie d'arracher mes vêtements, me déshabiller, de m'attaquer, de me mordre, de toucher mon sexe et de m'embrasser en même temps, tout à la fois. Donc, c'est un mélange complètement dingue entre
Oui,
l'amour et la
hystérique,
haine, en fait.
hystérique.
Exactement. L'érotomanie est un cousin de la schizophrénie. Hein, enfin. Et c'est comme ça qu'elle survit d'ailleurs, parce que ça l'explique à moi
Cécile au 739-21 nous parle du syndrome de Clérambeau. Est-ce que c'est un véritable hold-up du cerveau? Est-ce que vous avez entendu parler de ce syndrome?
Non, je connais pas. Mais je prendrai une note d'ailleurs, je peux le savoir de quoi?
Le syndrome de Clérambeau, ça s'écrit Clérambault.
Non, je connais pas, mais j'écouterai. Enfin, je vais voir.
D'accord, donc du coup, en fait, vous en étiez donc à la garde à vue. On la garde plus longtemps ce jour-là?
Pas du tout. Et c'est bien ça le problème. C'est que La plupart du temps, quand quelqu'un est psychiquement malade, enfin une personne est folle, hein, pour le dire vulgairement, elle est directement prise en charge par des soins psychiatriques et du coup, elle n'est plus aussi responsable de ses actes.
Donc il n'y a pas, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas la possibilité d'une, vous savez, d'une hospitalisation par ordre du préfet dans un cas comme celui-ci, parce qu'elle est russe, elle est sur le territoire français, elle vous agresse. Ben oui, c'est dingue.
Mais la seule chose qui s'est passée, c'est qu'elle a été mise, à mon avis, elle a été mise dans une urgence psychiatrique, puisque c'est les pompiers qui ont fini par l'embarquer. Et à la suite de ça, vu qu'il y a probablement au niveau du téléphone arabe entre moi qui parle aux policiers, les policiers qui parlent aux pompiers, les pompiers qui parlent après à l'hôpital psychiatrique, à l'urgence psychiatrique, le téléphone arabe, il n'a pas vraiment pu se faire, j'imagine. Ben, quoi qu'il en soit, le lendemain matin, à 9h, quand je suis parti pour aller porter plainte, elle était devant ma porte. Donc, il faut se dire, il y a quand même un truc qui ne va pas, parce que la veille, elle a essayé de me tuer, et le lendemain matin, elle était libre et devant ma porte. Donc là, moi, je ne la laisse pas réagir. J'ouvre ma porte, elle est là. Déjà, j'ai constaté un truc bizarre, c'est que sur ma boîte aux lettres, il y avait son nom et mon nom. Donc, j'ai vu qu'elle avait changé, elle avait mis son nom sur ma boîte aux lettres, et elle avait glissé ses passeports dans ma boîte aux lettres. Juste pour prouver que c'était peut-être ma... Enfin, je sais pas, elle essayait de prouver que c'était ma femme ou un truc comme ça, chose qu'elle essayait toujours de dire. Et d'ailleurs, ses passeports ont été attestés faux. Il y avait marqué Guillaume, enfin, Julia Home, comme Julia, mais avec un Home derrière, et Chénier, comme on montrait.
En tout cas, on peut voir, Guillaume, qu'en rajoutant son nom sur la boîte aux lettres, elle a l'intention vraiment d'être là, parce que c'est assez symptomatique, ça, de rajouter son nom. Et je sais que ça n'est pas terminé. On va marquer une petite pause, on va laisser passer l'info, Guillaume, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ?
Bien sûr.
À tout de suite. Avant l'info, Guillaume nous expliquait qu'il y a eu une escalade hein, dans ses poursuites, puisque cette femme, un soir du 14 juillet, précisément cet été, cette femme a essayé de le faire tomber dans l'escalier violemment. Et c'était carrément une tentative de faire mal, voire de tuer, puisque cette femme s'est précipitée sur vous, Guillaume, en criant « kill, kill », en tout cas... Vous avez bien dû avoir peur. Vous n'avez dû votre salut qu'à votre fiancé hein, ce soir-là.
Le salut, c'était la rambarde sur laquelle je me suis accroché.
Ah, je pensais qu'elle vous avait passé une bombe lacrymogène, votre fiancé ce soir-là.
Après, bien sûr. Après, en fait, on en a plusieurs à la maison, puisque c'est mon seul moyen pour la repousser, pour ne pas utiliser la violence physique. Donc la plupart du temps, en fait, quand elle m'agresse, que ce soit en spectacle, que ce soit, enfin, peu importe, dans la manière dont elle a fini par me retrouver, mon moyen pour la repousser, c'est de la gazer, tout simplement. Et pour vous dire à quel point sa maladie l'atteint, c'est qu'une fois, dans un festival où elle avait réussi à passer l'entrée, et à rentrer dans le backstage, elle est venue trois fois de suite vers moi, et trois fois de suite, je l'ai gazée. C'est-à-dire que même si je l'ai gazée deux fois en quatre heures, la troisième fois, en s'approchant, elle savait évidemment que j'allais faire la même chose. Et même si c'est une douleur insupportable, hein, c'est une brûlure des yeux qui est très dure, se faire une bombe à poivre, elle est juste revenue une troisième fois et elle s'est fait regazer.
Il est important de souligner pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant que vous vivez bien évidemment très mal cette situation, puisque il ne s'agit pas d'une situation où elle vient de temps en temps hein, faire éruption dans votre vie, mais que c'est de manière permanente qu'elle vous suit, qu'elle prend contact avec des amis, elle a même appelé vos grands-parents. Donc cette garde à vue, en fait, vous disiez qu'elle avait mis même son nom sur votre boîte aux lettres, et vous avez parlé de passeport aussi, je n'ai pas compris.
Ben, la dernière fois qu'elle est venue en France, donc cet été et l'été dernier, elle avait un passeport russe avec marqué dessus Julia, c'est comme son prénom, mais avec un G et écrit de la manière comme mon prénom à moi, Guillaume. Et donc, du coup, elle a marqué Guy, enfin Julia, et après, elle avait rajouté un nom de famille, Home, qui est aussi un cri hindou, qui est le premier son de la terre. Et après, Chénier, qui est mon nom de famille. Donc, du coup, en fait, en assemblant tout ça, et ça, en plus, je viens juste m'en apercevoir hier, qu'en fait, du coup, ça donnait Guillaume Chénier. Donc, sur son passeport, finalement, elle avait son nom sonnait exactement comme le mien. Et ce qu'a mis la puce à l'oreille, bon, déjà, c'était pas possible qu'elle ait pu changer de nom comme ça. Donc, enfin, après, je connais pas les lois en Russie, si on a le droit de changer d'identité ou pas. Mais en tout cas, ce que m'a attesté les policiers de Montreuil, du commissariat de Montreuil, c'est que son passeport était faux, puisque en fait, on voyait, il y avait un truc argenté, une marque de passeport qui était sur la photo de son visage. Et normalement, il est interdit d'avoir quoi que ce soit sur la photo de visage, sur les passeports. Donc, ils m'ont dit donc, a confirmé avec eux que son passeport était faux, donc qu'elle voyageait avec des faux passeports. Au-dessus, il y avait mon. Elle avait récupéré mon identité.
Alors,
Voilà.
tout ça, c'était cet été à Montreuil. Depuis, est-ce que vous avez été obligé de déménager à nouveau, Guillaume?
Non, je peux plus redéménager. C'est tellement, tellement d'énergie et c'est plus possible. Je veux dire, je peux pas changer de métier ou changer d'appartement toutes les
Alors,
fois
comment
où
ça se
elle trouve
passe?
mon logement.
Comment
Eh
ça se
ben,
passe
comment ça se
là?
passe? Tout simplement, je suis dans un angle mort, comme je l'avais expliqué, c'est que j'ai eu une conversation du coup le lendemain de son attaque le 14 juillet. Donc, quand je suis allé voulu aller sortir pour aller au commissariat qu'elle est en bas de chez moi. Je l'ai laissé me poursuivre pendant 15 minutes pendant que j'étais au téléphone avec les policiers. J'en ai profité pour prendre des photos de son passeport pendant qu'elle me poursuivait, pour garder des traces. Et en fait, je l'ai encore arrêté moi-même. Je l'ai encore maîtrisé au sol pour après que la police la prenne. Donc là, ce jour-là, je suis allé au commissariat. J'ai eu de longues discussions avec eux. Donc d'abord un peu musclé parce qu'ils me reprochaient de l'avoir mis au sol, donc d'avoir utilisé la force pour l'arrêter. Évidemment, j'ai répondu qu'elle n'était pas aussi bête pour se donner dans les bras d'un policier si je courais vers la police. Et voilà. Donc après une première discussion un peu toujours la même d'ailleurs, un peu musclée avec eux, qu'une fois qu'on a essayé de trouver des solutions, ils m'ont dit que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Donc ce qui signifie beaucoup de choses. Ce qui signifie déjà la première, c'est qu'elle est considérée folle, donc elle est considérée pas responsable de me harceler, de venir à mon domicile, de menacer mes proches, d'avoir essayé de me tuer, d'avoir volé mon identité, de voyager avec des faux passeports. Enfin, je veux dire, rien que tout ça, mais c'est improbable qu'il n'y ait aucune charge contre elle. Mais il n'y
C'est
en a aucune,
incroyable,
puisqu'elle est
incroyable.
considérée comme folle. Et ce qui aussi veut dire, et ça, j'en ai déjà eu les frais l'année d'avant, puisqu'elle avait déjà été internée deux, trois fois précédemment, ce qui veut dire qu'elle est protégée par le secret médical. Donc, en gros, pour le dire d'une manière un peu plus cash, ça veut dire qu'il y a une meurtrière qui peut à tous les jours revenir en bas de chez moi pour me tuer et qu'il n'y a personne qui fait rien. Parce que
C'est
le
dingue.
jour où elle sortira de l'hôpital psychiatrique, et vu qu'elle est protégée par le secret médical, il n'y aura personne qui saura où elle est, il n'y a personne qui sera prévenu. Le pont qui a eu entre la police qui a livré Julia à l'hôpital psychiatrique, il est fini du moment que Julia devienne patiente. Donc du coup, après, il n'y a plus de communication entre tout ce qui est juridique et tout ce qui est hôpitaux. Donc finalement, elle est libre comme l'air, elle profite de l'hôpital psychiatrique, chose qu'elle voulait d'ailleurs. Elle m'avait écrit un message: j'espère que tu seras arrêté ou que tu m'emmèneras dans un hôpital psychiatrique parce que mon visa ne dure que 21 jours. Et ben, elle a eu exactement ce qu'elle voulait. Maintenant, elle reste en France plus longtemps que ce qu'elle devait, avec un faux passeport, malgré le fait qu'elle m'a tué. Et quand elle sortira, bah, la première chose qu'elle fera, ce sera
Elle va
de
venir,
m'agresser, moi, de
ouais.
ma copine.
C'est totalement dingue cette histoire.
Absolument.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en gros, la justice ne se positionne absolument pas par rapport à cette femme qui est considérée comme irresponsable, donc si j'ai bien compris.
Absolument. Donc,
Ça veut dire
c'est pour
qu'elle
ça
peut
que
vous
moi,
pourrir la
j'ai
vie,
contacté aussi les médias.
elle peut vous pourrir la
Pardon?
vie autant de temps qu'elle veut, donc, au final.
C'est qu'elle est libre finalement, c'est qu'il y a, il y a pas, j'ai aucune justice. Je suis dans une situation où la seule défense que je peux avoir, c'est la mienne. C'est-à-dire que je peux la gazer, je peux essayer de la mettre à distance, je peux la faire arrêter un jour, qu'elle ressort le lendemain ou peut-être après, et malgré tout ce qu'elle a fait. Donc c'est absurde finalement, c'est une situation absurde.
Oui, c'est totalement absurde. Et comment votre fiancée vit-elle ça? Parce que elle doit.
Campagne, on n'est pas là encore,
Oui, enfin,
mais
quand
bon.
je dis fiancée, vous savez, dans le sud-ouest, c'est parce que je trouve ça mignon. Et dans le sud-ouest, au lieu de dire petite copine, compagne, on dit fiancée. Mais n'y voyez aucun, voilà, aucun
Non,
truc
je rigole,
officiel.
il n'y a pas
Mais
de problème.
comment vit-elle ça, votre compagne?
Bah, pareil, hein, pour elle, c'est un cauchemar d'ailleurs. Enfin,
Ça peut mettre en péril votre relation.
Du fait que j'ai eu beaucoup de voyages dans ma vie, j'arrive à encaisser, je ne sais pas comment vous le dire, mais ma copine qui est plus sensible et qui est peut-être qui a moins d'expérience, moins de difficultés dans la vie, moins d'expérience forte, elle s'en plaint beaucoup plus que moi, puisqu'elle aussi, elle doit se limiter dans ce qu'elle fait pour... Ma copine est hongroise en plus, donc elle a besoin de communiquer à l'hongroise, elle ne parle pas très bien français, et elle a décidé de venir vivre en France avec moi. Et donc du coup, elle est un petit peu coupée avec toute sa vie et tous ses amis, sa famille qui est en Hongrie. Donc les réseaux sociaux, c'est un moyen pour elle de partager, de toujours communiquer avec ses proches,
oui,
et de ne pas avoir ce lien, ce pont qui permet de rester proche des gens qu'elle aime. Ça la triste absolument.
Ah,
et puis,
oui,
elle a peur de... Je veux dire, à chaque fois que là, sur ma porte, j'ai ma porte en face de moi, là, j'ai marqué dessus le numéro de la police avec le numéro spécial de Montreuil et notre adresse pour que si je ne suis pas là, elle puisse appeler la police. À chaque fois que je sors, je regarde en bas sur mon balcon si elle n'est pas dans la rue. Je regarde dans la cage d'escalier si elle n'est pas planquée quelque part. Et si ma copine rentre tard, je sors avant qu'elle rentre pour m'assurer que cette fille ne sera pas là. Et au final, dans cette histoire, ce qui me fait plus peur maintenant, c'est pas elle, c'est plus elle, finalement, c'est moi.
Oui. J'allais vous poser la question. Est-ce qu'il vous est passé par la tête de
Je suis quelqu'un de très calme, je fais du yoga, je fais beaucoup de méditation, des trucs comme ça. Vulgairement dit, je suis une sorte de hippie. mais voilà, j'ai la tête sur les épaules, j'arrive bien à me condenser, en tout cas émotionnellement. Mais évidemment, je ne sais pas qui est capable de voir une psychopathe agresser sa copine et ne pas pouvoir agir, en fait. Et vu que moi, je sais que ça dure depuis des années, que je sais que la police, juridiquement, il n'y a rien qui se passe, je suis dans une frustration qui est immense, finalement. Je suis tout seul.
Mais oui, parce que...
La seule justice que tu peux faire, c'est toi-même,
oui,
finalement.
Oui,
et si un jour, ma colère, elle sort du contrôle que j'essaie de mettre sur elle, et que parce qu'elle agresse ma copine, j'ai peur de ma réaction, c'est sûr, évidemment. J'ai des sentiments et elle m'a gangréné, quoi. Donc
oui,
forcément,
mais je pense que
j'ai peur un jour de dépasser les bornes.
Oui, je pense
que j'aurais gagné.
Je pense que ça fait déjà un moment que ça dure et que vous devez être passablement épuisé. On va marquer une nouvelle pause, Guillaume, et on se retrouve tout de suite après. Guillaume, vous nous avez écrit à la fin de l'affiche que Julia ou Florian ont fait. Il y a cette phrase qui est assez qui m'a fait dresser les poils, c'est je voudrais que la justice agisse pour me rendre la vie que j'ai perdue. Vous avez réellement cette sensation d'avoir perdu votre vie, que votre vie d'avant a disparu?
J'ai pas la même vie qu'avant, bien sûr, et je pense pas qu'il pourra revenir comme avant. Évidemment, j'aurai toujours un traumatisme à l'intérieur de moi, une frayeur si des rencontres un petit peu quelque part, bien sûr. Mais après, j'essaie de relativiser, comme je vous ai dit, j'essaie de transformer mes peines et je sais qu'il y a des Afghans qui essaient de rentrer, de fuir leur pays. Il y a des gens qui n'ont pas tout leur sens, qui sont aveugles ou sourds. Moi, j'ai une folle qui me poursuit, donc j'essaie de relativiser au maximum et de poursuivre une vie normale et saine. Mais évidemment, c'est très difficile.
C'est difficile de se résoudre à laisser cette situation telle qu'elle est, je suppose, parce que...
Je fais tous les moyens que je peux utiliser, je les utilise. Et là, le dernier en date, c'est d'essayer de médiatiser mon histoire pour qu'à travers cet outil, ce biais, je puisse secouer un petit peu les fondements de la justice et en recevoir un petit peu.
Hélène nous demande, cette 39-21, avec quels moyens cette femme s'est-elle déplacée dans le monde, y compris en France? Elle a quoi comme moyen, cette femme?
C'est une très bonne question. Elle n'a aucun moyen. Donc c'est quelqu'un qui vit dans la rue la plupart du temps et l'ère ottomanie, c'est un cousin de la schizophrénie et un schizophrène est vraiment capable de changer d'humeur, d'identité en quelques secondes. C'est-à-dire qu'elle est capable de pleurer, fondre en larmes avec l'Oscar du plus grand dramaturge et après de rire aux éclats en dansant. Et ce qui aussi se concrétise par le fait qu'elle peut, ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle traverse l'Europe en stop pour aller de la Russie en France.
Oui.
Et elle raconte des histoires. Elle raconte que je suis son mari, que je lui ai kidnappé les enfants. Ou des
que vous l'avez
comme
abandonné.
Ça. Et les gens la prennent par pitié, par compassion, par bienveillance. Et souvent, ils l'accueillent, ils lui donnent à manger, ils l'aident à me retrouver. Donc, ils donnent un accès à Internet, ils font des recherches avec elle. Et ça m'arrive plusieurs fois d'avoir des gens qui me contactent et qui me disent « Bon voilà, il y a cette fille chez moi qui a l'air vraiment perdue, vraiment étrange. Elle joue avec mes enfants, je suis vraiment inquiet, etc. Elle vous cherche. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe ?» Et donc du coup là, comme je vous avais dit, j'ai un email avec tout prêt qui me permet de ne pas devoir, parce qu'évidemment raconter mon histoire à chaque fois, c'est lourd. Donc je prends l'email de la personne et je dis voilà, je vous donne un email et vous recevrez tout ce que vous devez savoir sur cette personne. Et bien souvent après les gens ils paniquent et ça arrivait déjà aussi que des gens font une main courante contre elle à cause de ça. Donc c'est comme ça qu'elle vit, c'est au crochet des gens, elle vampirise en fait finalement, comme elle me vampirise moi. Je sais aussi qu'elle a une mère malade, parce que au fur et à mesure de ces 1600 emails, j'ai pu construire un petit peu des choses de sa vie. Avec les informations qu'elle me donne, je sais qu'elle a une mère malade en Russie. Il me semble qu'elle lui vole de l'argent, parce qu'un jour, elle m'a dit aussi que sa mère, quand elle a débarqué chez elle, elle a appelé la police, elle l'a rejetée. Donc je pense qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour trouver les moyens financiers en volant aussi sa mère. Et puis après, ouais, voilà, elle abuse de la bienveillance des inconnus qu'elle croise sur son chemin.
Elle est donc hospitalisée en ce moment et donc,
je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Bah non, c'est le secret médical, c'est toute l'absurdité de cette chose qui est à la base de quelque chose de sain, le secret médical.
Oui, mais vous parliez d'angle mort tout à l'heure, elle profite, elle, d'un angle mort assez important, hein, de son point de vue, hein, parce que finalement, elle est considérée comme malade, comme irresponsable, donc elle sait qu'elle doit savoir, hein, qu'on ne va pas vous donner le moindre renseignement sur elle, elle a compris ça, non ?
Eh ben, elle le sait. En fait, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est très bête et d'une autre manière très intelligente. Pour dédier toute sa vie à quelque chose qui soit de poursuivre quelqu'un d'autre, elle dépense tellement d'énergie depuis trois ans et demi. Je veux dire, même, elle apprend le français. Je crois qu'elle parle français maintenant. Je ne suis pas sûr, mais elle dépense tellement d'énergie pour arriver à son objectif, qui est de m'aimer, mais c'est même pas de m'aimer, je sais même pas ce qu'elle veut finalement. Je pense que d'une certaine manière, ce qu'elle veut, c'est de m'absorber, même si c'est pas possible. Mais je pense que psychiatriquement, c'est ça en fait qu'elle veut. Pour arriver à ce fin-là, elle utilise toute son énergie, toute son attention, hein, toute sa volonté, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question.
Si, mais de toute façon, vous avez parfaitement décrit ce qui peut se passer dans la tête de cette femme, c'est que vous êtes devenu son obsession et dans son délire, dans sa maladie, il y a votre image, il y a vous au cœur de sa vie et elle a dédié sa vie à vous aimer, à vous poursuivre, à vous... Voilà, c'est ça qui est flippant, en fait, dans votre histoire. C'est qu'elle ne lâche rien, parce que ça fait un moment que ça dure. Donc, c'est ça qui est très embêtant dans cette histoire. C'est qu'elle a quand même vécu tout un tas de revers, parce que personne n'aime vraiment prendre des jets de bombes lacrymogènes au poivre. Vous lui avez prouvé à maintes reprises que vous ne vouliez pas d'elle, que vous la détestiez même. Et malgré ça, elle revient. C'est ça qui est...
Vous voyez le film Inception,
oui,
avec Leonardo DiCaprio.
Oui.
Cette idée, en fait, que dans le subconscient, en allant à travers le rêve pour essayer de changer le fondement d'une vérité qu'une personne, enfin, le fondement d'une idée qu'une personne prend pour une vérité, et ben, cette idée-là, que finalement, dans un coffre-fort, dans le subconscient, il y a une vérité qui se cache, etc. Eh bien, faut le voir un peu comme ça. C'est que très loin, au plus profond d'elle, il y a une vérité. Et cette vérité, c'est qu'elle et moi, on est fait pour être ensemble. Et du coup, malgré, peu importe toutes les choses qui peuvent se passer au niveau de la surface dans sa vie, tous les rejets que je peux faire, tous les signes qui prouvent que la seule chose que j'ai pour elle, c'est plus que des nuances maintenant, c'est une sorte de haine. Ben, malgré tout ça, elle restera foncièrement convaincue qu'on est fait l'un pour l'autre. Pour vous donner une image, je suis persuadé que si j'avais un sabre dans la main et qu'elle me voyait et que j'avais mon sabre tendu dans sa direction, elle viendrait s'emparer sur le sabre pour venir prochainement. Mmh. Pour vous donner une image pour comprendre.
Ça n'est malheureusement pas qu'une image. C'est sans doute la réalité. C'est sans doute la réalité.
Réalité. Bon, ouais. Je n'ai pas essayé.
Non. Et n'essayez pas parce que vous l'avez dit. Ce qui est à craindre dans cette histoire, c'est que vous perdiez le contrôle un jour et qu'il se passe le pire la concernant. Donc c'est à souhaiter que. Bah qu'elle se calme, qu'elle s'arrête, je ne sais pas par quel moyen, parce que là, pour le coup, si la justice de notre pays n'agit pas, je ne vois pas comment tout ça pourrait s'arrêter. En même temps, elle est totalement malade, cette fille.
Pardon.
Non, allez-y.
Je vous ai coupé, interrompu, excusez-moi. La plupart des gens qui sont victimes de l'érotomanie, finalement, et j'en ai discuté avec certains qui ont pris la parole avec moi après que j'ai un article qui est paru dans le Parisien sur mon histoire. Finalement, il y a quelque chose qui est normal de penser, qui est vraiment étrange, mais de dire que la dernière phase de l'érotomanie, pour expliquer, c'est qu'en fait, dans la dernière phase, c'est soit elle a détruit sa vie, donc soit elle finit par mettre fin à ses jours, chose qu'elle a largement beaucoup évoqué dans beaucoup de ses messages, qu'elle voulait se tuer, qu'elle voulait en finir. Ou la deuxième chose, c'est qu'elle veut tuer la personne qu'elle meurtirise, moi.
Oui.
Donc là, elle est dans la dernière phase de sa maladie, dans la plus grave, et malheureusement qui est des fois irréversible. Dans cette situation-là, finalement, la victime, elle a de la chance quand son bourreau finit par suicider, parce que c'est la libération, en fait.
Oui, mais ce que vous êtes en train de nous expliquer...
Il n'y a aucun accès à la justice, il n'y a aucun accès à d'autres solutions que ça. Tristement, c'est quasiment naturel, alors que ça paraît absurde de le dire, mais c'est naturel de se sentir, d'avoir hâte qu'elle en finisse, quoi.
Mmh. Mais dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que dans cette dernière phase, c'est elle ou vous.
C'est exactement ça.
Oui, ouais, c'est terrible. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite ici beaucoup de courage, vous en avez, de la patience, vous en avez, c'est sans doute aussi lié à votre mode de vie aussi et votre philosophie de vie. Et je ne sens pas que vous craquerez, mais ça ne m'empêche pas de vous souhaiter vraiment beaucoup de courage, Guillaume, à vous et à votre compagne. Et puis, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver maintenant. Et si vous avez besoin à nouveau de relayer cette situation et de repousser un coup de gueule, vous savez où nous trouver. D'accord ?
Très bien. Je rajouterai un dernier mot, puisqu'il y a quelqu'un qui m'avait contacté et qui suit votre émission et qui souffre quelque chose qui est similaire de mon histoire, qui écoute votre émission et qui souhaitait vous embrasser. Donc, c'est anonyme, évidemment, mais je transmets le message parce qu'elle aime beaucoup et elle apprécie votre émission et le travail que vous faites avec pour aider les gens qui ont besoin d'être écoutés.
Mais écoutez,
donc, je transmets le message.
Eh bien, vous retournerez les bises à cette personne. Merci, Guillaume, et portez-vous bien et n'hésitez pas. On est là.
Également.
Au revoir.
Merci à vous. Bonne soirée.